Ok, alors, trois idées aujourd'hui, un nouveau format de podcast, puisque je vais, au lieu de te partager une seule idée sur 30 minutes, on va parler de ces trois idées-là. C'est des idées que j'ai rarement vues sur le web, d'où l'intérêt de les partager. Donc la première idée, l'inspiration est à usage unique, tu vas voir ce que ça implique. Pourquoi je refuse de gaspiller plus de 20% de mon temps à créer du contenu? D'accord, et pourquoi c'est une mauvaise idée en tant que formateur, en tant que créateur, formateur. Alors je parle vraiment des formateurs coach, ceux qui ont un business derrière, ceux qui ont une expertise à vendre. C'est une mauvaise idée de passer 80% de ton temps à créer du contenu, à te demander comment rendre le contenu plus catchy. On va voir pourquoi. Et troisième idée, le comment est sans importance ou de faible importance, dira-t-on, ce qui remet en cause l'idée même des méthodes. On va voir comment être beaucoup plus productif en oubliant le comment. Alors, première idée, l'inspiration est à usage unique. Et tu me diras, d'après ton expérience, alors quand tu as une inspiration, tu vois, ça peut être une inspiration que tu as, je sais pas, sous la douche ou en lisant quelque chose, en parlant avec quelqu'un, en faisant une balade, peu importe, l'inspiration, elle tombe à un moment donné, souvent quand on s'y attend pas, ou des fois on la cherche, mais en principe c'est quand on la cherche pas qu'elle vient. Moi je vois par exemple, c'est en général le week-end, quand je décide de ne pas travailler, que d'un coup j'ai envie d'écrire des contenus, j'ai envie de créer des trucs parce que c'est là où j'ai des idées. Alors que quand je me pose devant mon ordinateur pour dire ok, faut que j'écrive quelque chose, et là, il n'y a rien qui vient. Donc, cette inspiration, elle arrive, et cette inspiration, cette idée, ce déclic, elle a une seule, il y a une seule cartouche. C'est-à-dire que dès que tu t'en sers, peu importe ce que tu fais avec, elle disparaît. Donc, tu peux la noter dans ton système de notes, elle disparaît. Tu peux en parler, tu peux la partager, créer un contenu, elle disparaît. Tu peux l'implémenter, parce que tu vois, c'est l'inspiration, c'est pas forcément pour créer quelque chose, ça peut être pour, enfin, pour créer un contenu, ça peut être très bien pour implémenter un nouveau système, une nouvelle stratégie business, tu vois, résoudre un problème. Et donc, si tu l'implémentes, ensuite, elle disparaît. Quand je dis disparaît, c'est la motivation qu'il y a derrière, parce que avec l'inspiration vient la motivation, d'accord? Et à l'instant où tu as cette inspiration, tu as une fenêtre dans laquelle tu peux agir par rapport à cette inspiration. Si tu n'en fais rien, alors elle peut te trotter dans la tête, et ça peut être un très bon filtre de la laisser trotter dans ta tête pour identifier les meilleures inspirations. Celles qui restent sont les plus intéressantes. Maintenant, moi, ce que je conseille de faire, c'est qu'il y a une inspiration. C'est vraiment quand tu sens qu'il y a une inspiration forte, quelque chose de, okay, ça, c'est une bonne idée. C'est d'être impatient dans son implémentation, d'être impatient dans son utilisation. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que une fois que tu l'as utilisé, tu l'évacues, d'accord? C'est-à-dire que, et c'est à toute l'implication, c'est que si tu apprends quelque chose, tu tombes sur une idée, waouh, cette idée, ça peut changer la vie, tu vois, c'est un principe, ça peut être philosophique, marketing, peu importe. Je mets ça en place, je le sens, ça peut vraiment faire la différence. Donc là, tu as à ce moment-là cette énergie, tu as cette motivation. Et si tu sautes sur ton clavier pour la partager, tu évacues cette motivation. Et donc après, tu te dis, il faut que je la note quelque part pour revenir dessus en temps voulu pour l'implémenter. Et ça n'arrive jamais, ou très rarement. Parce qu'en réalité, tu l'as évacué. Et d'ailleurs, on le voit dans le monde, tu regardes autour de toi, il y a les gens qui font et il y a les gens qui parlent. Pour cette raison. Parce que quand on tombe sur une idée, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'évacue? Comment on s'en sert? Eh bien, ce qui fait la différence. Et donc, évidemment, les meilleures idées, avant de les partager, tu veux les implémenter. Ben, pour deux raisons. La première, celle qu'on vient de citer, ce que je viens de citer sur le fait que ça les évacue. Et la deuxième, c'est que partager une idée que tu n'as toi-même pas expérimentée, c'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif pour les gens avec qui tu la partages. Parce que tu as juste une idée, enfin, un a priori sur l'idée, je veux dire. Tu dis, OK, cette idée, elle a l'air géniale. Je sens que ça peut tout changer. Dans ta tête, tu as déjà fait tu as tout le puzzle qui s'est réorganisé autour de cette idée de okay, si je mets ça en place, il va se passer ça et ça et ça et ça et ça. Mais en fait, c'est notre biais d'optimisme qui joue très souvent dans ce cas. Donc, avant de la partager, moi, mon conseil, c'est apprends, implémente, puis partage. De cette manière, donc tu apprends quelque chose, tu dis wow, ça c'est génial. Je suis pressé. Donc, si t'es en train de lire un bouquin, tu tombes sur un truc, tu dis putain, cette idée, c'est de la balle. Tu fais un effort pour la comprendre. Donc peut-être ça sous-entend revenir en arrière dans le bouquin, ou avancer, ou via un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être peu importe. D'ailleurs, souvent, quand je tombe sur une idée comme ça, donc j'essaie de la comprendre avec le matériel dans lequel je suis. Et puis ensuite, je vais approfondir sur le web, regarder s'il n'y a pas des vidéos, on peut parler avec ChatGPT, on peut faire différentes choses. On essaie de suivre le terrier du lapin, le rabbit hole, comme ils disent, les Américains. Et jusqu'à avoir un premier déclic, une première compréhension, réussir à que tu arrives à l'accrocher à ta vision actuelle du monde. Ah ok, ça s'emboîte comme ça avec mes connaissances existantes. Maintenant je la vois, maintenant je la comprends, en tout cas suffisamment pour agir dessus. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de consommer, pose tout, t'essaies pas de faire des highlights en disant que tu reviendras dessus. Non, non, non. Comment je l'implémente concrètement dans ma vie? Parce que si cette idée elle est bien, si l'idée, c'est une putain de bonne idée, je vois pas pourquoi j'attendrai avant de la mettre en œuvre. Sinon, c'est que c'est pas une idée si importante que ça. Parce qu'une idée qui est importante, c'est une idée révolutionnaire. En tout cas, elle a le potentiel d'être révolutionnaire. Et donc, ça veut dire que si elle peut révolutionner ton quotidien, chaque seconde où elle n'est pas implémentée, c'est une seconde c'est une dette que tu payes, en fait. Parce que si effectivement cette idée elle est aussi géniale que tu le penses, le fait de la mettre en place, ça doit avoir un impact, ça doit avoir un tu vas avoir un saut, un palier de résultats qui doit être relativement rapide. Après, ça dépend dans quel domaine tu es. Je veux dire, dans la santé, on a moins d'exponentialité que dans le business, par exemple. Mais l'idée est la même. D'accord? Donc, apprendre, implémenter, partager. Il y a une petite exception à ça où tu peux parfois, quand je dis apprendre, c'est par exemple, tu consommes un contenu, tu tombes sur un exemple, ça peut être la citation de quelqu'un, ça peut être l'histoire. Ça peut être un client, ça peut être un génie que tu lis, un formateur, enfin peu importe. Tu tombes sur une situation, un exemple, une histoire, quelque chose de concret, un événement concret, ou ça peut être une statistique, ça peut être peu importe. C'est ce que j'appelle un contexte qui permet d'illustrer une idée existante, une idée que tu as déjà implémentée. Et dans ce cas de figure, tu reprends ton idée et tu la colles dans ce contexte et tu en fais la leçon. Tu dis, ben voilà, un tel a dit ça, ou il s'est passé ça, parce que idée. Et ça te permet de renforcer tes idées avec les contextes, pas seulement tes contextes, toi tes contextes, ta propre expérience, c'est ce que toi t'as fait dans ta vie, les résultats que t'as eu, les échecs de tes clients. Donc là, c'est les meilleurs contextes que tu puisses utiliser parce qu'ils sont propres à toi, il n'y a que toi qui peux vraiment en parler. Et puis après, il y a les contextes des autres, tu vois. Donc tu peux te servir des contextes des autres, ça peut être les news, ça peut être quoi, ça peut être peu importe, ça peut être un bouquin philosophie. Tu trouves des contextes et tu les colles à tes idées. Donc, mais ce sont des idées que tu as déjà implémentées. Et là, à ce moment-là, tu peux court-circuiter la partie implémentation, vu qu'il y a plus, c'est plus une partie de réflexion. C'est ce que j'appelle du pattern matching. C'est quand tu as le concept et le contexte. Donc, le concept, c'est l'idée abstraite que tu as dans ta tête, le modèle mental qui te permet d'identifier, de comprendre la réalité. Par exemple, la loi de Pareto, c'est un concept. Et le contexte, ça va être, ben, tu as tes chaussettes, tu vas voir que tu mets 20% du temps, le 80% du temps, tu mets le 20% de tes chaussettes. Donc, ça, c'est un contexte. En exemple, et donc du coup tu vois, t'as un pattern matching. Ah bah tiens, c'est la loi de Pareto qui fait plutôt une loi de puissance. Enfin, la loi de Pareto, c'est plutôt dans le contexte économique, mais loi de puissance. Et donc effectivement, distribution extrême, très peu des vêtements, je les mettrais souvent. Donc là, j'ai une application concrète en contexte dont je peux me servir. Comme j'ai déjà implémenté mon concept ici, l'avantage c'est que j'apprends que je peux implémenter ce concept dans de nouveaux contextes. Alors ça peut faire en sorte que, ah ben tiens, il faut que moi-même je l'implémente. Peut-être qu'avant d'en parler, je vais aller faire le tri de mes chaussettes et ensuite je pourrais le partager éventuellement. D'accord? Donc, quand tu as une inspiration, demande-toi est-ce que c'est priorité à l'implémentation et ensuite au partage. Ce qui améliore la qualité de tes partages et qui fait que tu vas implémenter beaucoup plus de choses intéressantes dans ta vie. Voilà, ça c'était pour l'inspiration qui est à usage unique. Deuxième idée, pourquoi je refuse de gaspiller plus de 20% de mon temps à créer du contenu? C'est un grand conflit un terme que j'avais un temps, c'est que tu regardes le créateur, le boulot du créateur, c'est de créer du contenu qui attire l'attention. Le problème, ce qui se passe, c'est que quand t'es créateur à 100%, tu dis, ben voilà, mon but, c'est de créer du contenu sur une thématique. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu passes la majorité de ton temps à chercher des concepts, à chercher des idées qui peuvent attirer l'attention. Donc, en fait, tu ne deviens pas un expert de ta thématique, tu deviens un expert à créer du contenu sur cette thématique, qui est sensiblement différent. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que, en ne devenant pas un expert, donc tu ne pratiques pas réellement ou beaucoup moins que ce que tu devrais ton métier. Et Et par conséquent, tu ne développes pas des résultats pour toi et pour tes clients, ce qui te prive de l'autorité qui va avec. Parce que si tu dis, bah tiens, moi, je sais pas si tu veux enseigner le business, mais bah tiens, là, j'ai lancé trois business, PayPal, SpaceX, Tesla, en cours d'autres, Boring Company et tout. Enfin, tu reconnaîtras la personne derrière. Si cette personne, elle se mettait à vendre des formations sur comment faire du business, elle n'a pas besoin de beaucoup de marketing pour cartonner. Pourquoi? Parce qu'elle a l'autorité. Elon Musk a l'autorité. L'autorité, tu vois, je veux dire, si t'es juste créateur et que tu passes ton temps à chercher comment optimiser l'impact de ton contenu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retrouver à chercher comment améliorer l'accroche de tes vidéos, tu vas chercher les hacks de SEO, tu vas chercher à collectionner des templates, etc. Toutes ces choses-là sont des petites optimisations qui peuvent être intéressantes et que je recommande de faire, surtout dès que tu commences à avoir les moyens de prendre une équipe. Mais la plus grosse optimisation que tu puisses faire, c'est ton autorité. D'accord? Parce que tu prends Elon Musk qui publie des vidéos à l'arrache, filmé avec son téléphone et qui vend ça à 10 000 balles pour te former sur le business, versus Tartampion qui fait des vidéos ultra bien chiadées, bien expliquées sur le même sujet, et qui passe 200 heures à éditer, à monter ces vidéos-là, ma Tartampion, il fera toujours moins de vues que Elon Musk pour une question d'autorité. Donc, quand tu prends du recul, tu vois que c'est assez évident. Donc là, je prends un exemple extrême, c'est pour faire une expérimentation par la pensée, qu'on le voit. Donc, ton énergie, tu vois, si tu dis, OK, moi, et moi, ça, c'est vraiment la configuration que j'ai, c'est, je ne veux pas dépenser plus de 20% de mon temps à créer du contenu. Et là, je suis vraiment en train d'expérimenter ces quelques semaines pour créer du contenu vraiment à la volée. Moi, dès que j'ai une inspiration, je crée le truc et je l'oublie. Là, j'ai mon podcast, je reprends les petites inspirations que j'ai eues, donc les inspirations que j'ai publiées sur Telegram, et donc je les utilise comme script pour de faire un podcast à la volée. Ça me prend ça me prend le temps d'enregistrer le podcast, et là j'ai toute une automatisation qui envoie le truc. Je fais pas d'édition, de montage, quoi que ce soit pour l'instant. Mon objectif, c'est juste de pouvoir le plus rapidement possible capturer mes idées. Tu vois, dès que je suis en train de lire, capturer une idée. Dès que je suis en train de marcher, capturer une idée. Tac, tac, tac. Et donc du coup, je comble les inefficiences de mon temps. Je crée avec la partie inefficiente de mon temps. Tu vois, c'est-à-dire les moments où je suis pas en train de bosser sur mon produit, je suis pas en train de bosser sur le développement de mes compétences. J'ai du temps pour moi, je me détends et c'est là que les idées viennent et je capture à ce moment-là les idées et je veux pas passer 10 ans à les mettre en forme. Je veux pouvoir les capter rapidement sur Telegram et puis les convertir en contenu discussion comme ça, de manière impromptue. Et ce que je fais, c'est que finalement, je te parle de mon expérience, d'ailleurs, parce que c'est des principes que j'ai systématisés, que j'utilise quotidiennement dans mon expertise. Et donc, du coup, pour en parler, c'est relativement facile parce que pour moi, c'est des problèmes que j'ai déjà résolus. Donc, je passe pas 1 000 ans à essayer de mettre en forme mes idées pour qu'elles soient plus catchy. Ça augmenterait évidemment mes résultats en termes de reach. Apparemment, seulement ça a un coût d'opportunité, parce que toute l'énergie que je dépenserai à faire ça, je la dépenserai pas à améliorer mon expertise et par conséquent devenir un des meilleurs de mon industrie et développer mon autorité et avoir le gros coefficient sur la création. D'accord? Donc, voilà pourquoi je refuse de gaspiller plus de 20% de mon temps à créer du contenu. Alors, je dis gaspiller, c'est un peu catchy, mais pour moi, c'est tu pratiques et avec le temps à côté, quand tu as un moment, tu crées quelque chose. Une autre manière de faire que j'ai vu chez les milliardaires notamment, c'est qu'ils vont passer une bonne partie de leur vie à exécuter, et puis ils vont prendre Dalio en ce moment. Donc là, il est en train de passer Bridgewater associé, donc son fonds spéculatif. Donc il prend sa retraite et maintenant il a commencé il y a depuis quelques années à écrire des livres comme Principles, où là il passe beaucoup de son temps à écrire, mais c'est juste qu'il a il l'a juste pas fait en parallèle, il l'a séquencé, tu vois, il est sur la en dernière phase de sa vie où là il passe ses connaissances, et pour moi c'est le moyen le plus smart de créer de la valeur. Maintenant évidemment, c'est bien de pouvoir construire ton audience dans nos cas de figure en parallèle. Mais le meilleur moyen de construire une audience, c'est à travers son autorité. On est dans un jeu de l'admiration. Faut pas se le cacher. Les gens qui te suivent, c'est les gens qui veulent devenir comme toi. Donc, donne-leur l'exemple. Et on donne pas l'exemple avec des hacks SEO. On donne l'exemple en transformant son quotidien et le quotidien de ses clients. Voilà. Donc, ça c'était pourquoi je refuse de gaspiller plus de 20% de mon temps à créer. Dernière idée, le comment est sans importance ou de très faible importance. Ce qui compte, c'est pas comment tu le fais, c'est ce que tu fais. Si je prends l'exemple de Thomas Edison et Albert Einstein, c'était deux personnes extrêmement désorganisées. C'était tête en l'air. Ils oubliaient d'aller. Enfin, Einstein oubliait les meetings. Enfin, c'était vraiment le gros bordel. Et ils se souciaient pas du tout de leur productivité. D'accord. C'était. Et ça, c'est un pattern. C'est un paradoxe qu'on retrouve chez la plupart des personnes à succès. Si tu vois, en fait, le paradoxe, c'est que tu vois que, bah, tu vois, t'as tous ces articles sur les habitudes de vie. Les habitudes à succès, enfin l'habitude des gens à succès, et t'as les 5 habitudes, les 10 habitudes, machin, et c'est des genres de contenu qui a l'air d'être smart, mais en réalité, la vie est beaucoup plus inefficiente que ça. Et quand tu regardes ces gens, en fait, c'est pas des habitudes auxquelles ils sont aussi rigoureux qu'on pourrait le croire. Tu vois, ça c'est ce côté ultra efficient, calculé, mathématique, vraiment où tout est bien cadré, les petites habitudes, tout est joli. C'est dans le monde de la création. Faut vraiment pas oublier un truc, c'est que quand tu passes de l'information, tu veux qu'elle soit, qu'elle adhère. Et pour qu'elle adhère, il faut qu'elle soit simpliste, qu'elle soit noire ou blanc. Faut que le contenu, ça soit en X étapes ou une liste. Faut que ça soit quelque chose qui fasse facile à digérer, qui reste dans l'esprit, tu vois. Il n'y a pas de place pour les nuances. Et donc, quand on crée, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit, voilà, je t'ai extrait les 10 habitudes. Tiens-les. Et il sait pas qu'il n'y a pas de valeur dedans. Il peut voir, dire, bah tiens, cette habitude, c'est intéressant. Alors, le plus souvent, c'est 10 habitudes, c'est des trucs bancaux, hein, qu'on connaît tous. Donc, tu regardes, tu dis, ouais, bon, je savais. Mais derrière, bien comprendre qu'il y a une nuance. Si tu regardes le quotidien d'un high performer, il n'a pas une morning routine, genre, il se lève, c'est minuté, il a une minute de ci, une minute de ça, une minute de ça. Non, ça c'est du bullshit. La réalité, c'est qu'il se lève, il prend sa douche, peut-être il boit son café, il se met à bosser. Des fois, entre deux, il discute 10-15 minutes. Des fois, ça lui prend 1 heure pour se lever. Des fois, ça lui prend 5 minutes. Il y a de la variation. Ça fait partie du quotidien de la vie. Des fois, il mange des tartines. Des fois, il mange pas. Je sais pas. Des fois, il se douche après avoir mangé. Voilà. Il y a plus ou moins de variations. Et ces variations-là, elles ne sont pas le fruit d'une délibération. Elles sont plus par itération du quotidien, il se lève, il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il ce qu'il a à faire parce qu'il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il veut faire, il se lève et il le fait. Et de temps en temps, bah, s'il y a peut-être s'il se rend compte qu'il a du mal à faire ce qu'il a à faire, bah, il va s'arrêter, il va réfléchir, dire bah, tiens, il y a ce problème-là qui me bloque. Apparemment, c'est à cause de ça. Donc, j'essaie de le retirer, je vois ce que ça donne et il expérimente jusqu'à ce qu'il trouve son dans son quotidien, qu'il trouve son équilibre. Et je t'encourage vraiment à faire de même par expérimentation. À retirer les choses et voir ce qui marche. Et donc, comme je disais, le comment est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est le quoi. Parce que si tu fais parfaitement 1000 choses, tu auras de toute façon, c'est même très difficile de faire parfaitement 1000 choses, mais si tu fais correctement 1000 choses, même 100 choses, tu vas dépenser, disperser ton énergie sur plein de projets, sur plein de trucs, et tu vas vraiment être moyen dans tout ce que tu fais. Et ça va pas t'apporter grand-chose. Alors que si tu fais que les deux choses, ou même la seule chose qui a le plus de valeur, mais que tu le fais d'une manière inefficiente, tu vois, bah tu t'es pas en train d'optimiser le comment avec la dernière application de productivité ou tu vois les templates, les machins. Tu fais simplement. Tu dis, ok, tous les jours, mon but, c'est de faire ça. Tu vois la finalité plus que les étapes. Les étapes, elles viennent plus automatiquement. Et tu vois cette finalité et tu le fais. Et tu te lèves le lendemain et tu le fais. Et tu le refais. Et tu le refais. Et souvent, ce qui se passe, le problème, c'est que là, on cherche le comment, mais le truc, c'est que le quoi change fréquemment. Ou alors, il y a beaucoup de quoi. C'est genre, il y a un truc, puis après, il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Finir, il y a trop de trucs. On oublie le premier, on a un sixième qui vient, septième, huitième, on oublie le deuxième, le troisième, etc., etc. Et donc, du coup, il y a une sorte de roulement, comme ça, et on est toujours en train de recommencer de nouvelles choses. Et le problème, il est plus à ce niveau-là, sur le quoi, que sur le comment. Donc, c'est celui qui priorise a pas besoin de s'organiser. Celui qui passe son temps à s'organiser, moi, je dis là, si tu passes ton temps à essayer d'organiser ton quotidien, c'est probablement parce que tu as trop de choses. Ou parce que tu procrastines activement. Parce que tu n'oses pas confronter ce qui est important, donc tu cherches à l'organiser. Mais voilà, le gros truc, c'est manque de priorisation. Ça, je le vois chez tout le monde, on en est tous victimes. C'est pour ça qu'on travaille avec d'autres personnes qui nous disent de nous concentrer, de nous focaliser. Et c'est pas facile, parce qu'il y a d'un côté, on nous dit qu'il faut suivre, il faut explorer. Pour moi, il y a deux, c'est ce qu'on appelle le dilemme d'exploitation-exploration. On a deux, Il y a deux grands aspects dans la vie. Il y a l'exploitation de ce que tu connais et tu sais que ça marche. Donc tu le fais, le refais, le re-refais. Ça peut être ennuyeux à force, mais tu vois, t'as la salle, t'as ton programme, tu sais que ça marche. Là, tu pousses, voilà, t'as tes jours, machin, t'as ta routine. Ok, tu l'exploites, tu sais qu'elle est passablement bien optimisée. De temps en temps, tu fais des petits tests pour l'améliorer, mais le gros de ta routine, elle est là. Puis après, il y a l'exploration, où là, ça consiste justement à explorer, aller viser large, regarder, enfin, passer du temps dans des sujets qui ont apparemment rien à voir, mais qui t'attirent, ou tu vois, tester des trucs qui en ont rien à voir. Et de temps en temps, tu trouves quelque chose qui vient bouleverser ta routine, soit qui vient la remplacer complètement, soit qui vient l'optimiser, soit qui vient la simplifier, tu vois, qui permet bah, parce que dans l'exploration, tu trouves une nouvelle idée à exploiter qui a beaucoup plus de levier, beaucoup plus d'impact que ce que tu fais actuellement. D'où l'intérêt d'avoir les deux. Parce que si tu es 100% dans l'exploration, ce qui est souvent le cas à la plupart des gens, et qui jamais ne sont dans l'exploitation, très rarement, bah, ils passent leur temps à trouver des idées, mais jamais ils les exploitent à leur plein potentiel. Et donc, ils sont toujours en train de changer. Donc on est dans du quoi, du multiple quoi, et celui qui est que dans l'exploitation, il a trouvé un truc qui marche et il le refait, et bien bientôt le monde change. Tu vois, dans certains cas de figure, en business, si tu exploites un produit qui fonctionne aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 5 ans il marchera toujours. Donc si tu fais que exploiter ce qui marche, certes, tu as beaucoup moins de job. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Ben, 5 ans après, ton produit est obsolète et t'as rien d'autre sur le feu. Alors que si tu es aussi en exploration, tu trouves des nouvelles idées, tu les implémentes dans ton quotidien, et tu as bientôt ces nouvelles idées qui viennent remplacer les anciennes, et c'est comme ça que ton business évolue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, c'est on veut garder uniquement les quelques idées qui t'apportent le plus, les quelques procédures, les quelques habitudes qui apportent le plus. Ça peut être de l'argent, ça peut être du fun, ça peut être du sens, ça peut être de la santé, tu vois, peu importe, mais en fonction de tes objectifs, est-ce que c'est quelques éléments t'apportent le plus. Soit ça peut être, est-ce que j'ai 500 amis et que je disperse mon temps sur ces 500 amis, ou est-ce que j'identifie les 5 à 10 amis qui m'apportent le plus de plaisir, qui sont le plus alignés avec moi, qui ont le plus d'impact positif sur moi, et je redirige tout mon temps sur ces 5 à 10 personnes, me permettant de créer une relation beaucoup plus profonde que d'avoir 500 potes, tu vois. Ça, c'est typiquement l'exemple. Par contre, avoir 500 potes, ça, c'est de l'exploration. Tu rencontres des gens, ça te permet d'identifier les quelques potes qui ensuite te permettront, les quelques meilleurs potes, voilà, tu vois. Donc, voilà, je te donne cet exemple de ce dilemme d'exploration, exploitation, pour te montrer que c'est pas non plus tout noir ou tout blanc, parce qu'on peut pas immédiatement identifier le quoi. Par contre, il faut avoir en tête que dès que tu vois que c'est le bordel et qu'il y a trop de choses, et c'est pas d'optimiser le comment, et c'est pas de dire, ok, comment faire pour aller plus vite pour faire ces choses. Parce que, tu vois, si t'as 500 potes, encore une fois, quelles sont les étapes pour augmenter, améliorer la relation avec ces 500 potes? Si, tu vois, ça fait pas sens. Alors que si je te disais, trouve les 10 potes les 10 amis avec qui tu as plus d'affinités, qui sont plus positifs pour toi et que t'es plus positif pour eux, et réinvestis tout ton temps sur eux, le comment tu investis ce temps a beaucoup moins d'importance que le fait d'allouer la quantité de temps que tu as alloué aux 500 avant. C'est ça qui fait la différence. C'est en te concentrant sur les quelques éléments qui ont un gros impact que tu auras les résultats. Et ce qui est génial, c'est que aussi en faisant ça, ce que ça t'apporte, c'est que ça t'enlève la complexité. T'as beaucoup moins besoin d'organiser, de systématiser, tu vois, de mettre en place des procédures ultra carrées, qui essaient d'exploiter au maximum le levier. Non, on identifie les quelques éléments et puis imparfaitement, on les exploite. Et c'est parfaitement OK. D'accord. Voilà pour les 3 idées. J'espère que ce petit format de podcast te plaît. Donc, je vais expérimenter avec différents formats comme celui-ci, mais en tout cas, ça me paraît intéressant. J'ai l'impression de donner plus de valeur. Donc, n'hésite pas à m'en faire part, à me dire ce que tu penses, soit sur le canal Telegram, soit dans ma newsletter. Tu peux me répondre quand j'envoie un mail. C'est sur damienp.com. Je te souhaite une magnifique fin de journée. Et puis, surtout dans un prochain épisode. Salut.